Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Il est 17h et vous êtes en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Alors comme tous les jours, je suis avec Alexandre. Salut Alexandre.
Bonjour à tous, chers amis.
Et puis comme chaque mardi, c'est l'heure de l'animasso d'AnimaFac.
Alors aujourd'hui, dans notre animasso, on accueille les étudiants de l'association des étudiants guinéens de Tours, c'est ça. Et est-ce que vous voulez vous présenter et présenter votre asso?
Moi, je me nomme Bayo Adama, je suis le président de l'association.
Et moi, c'est Diallo Kadé, je suis la chargée de communication de l'association.
Vous avez même une chargée de com, c'est trop bien. Et donc, vous êtes combien dans votre association?
Dans l'association, nous sommes au nombre de 26 pour le moment.
Et est-ce que vous voulez expliquer en quoi consiste votre asso, comment elle s'est créée, comment ça fonctionne?
Et du coup, constatant les difficultés auxquelles font face les étudiants arrivant sur Tours, primo ceux d'avant nous, et surtout liés aux difficultés de l'intégration et à la validation de leur cours, il y a nos aînés qui, après de nombreuses discussions entre eux, ils ont décidé de mettre une association en place qui pourra remédier à tous ces problèmes. C'est comme ça qu'ils ont décidé de créer l'association. Et l'association a été créée le 26 novembre 2017, ici à Tours.
D'accord, donc c'est une association qui est plutôt jeune au final.
Oui, c'est ça évidemment.
Et du coup, de ce qu'on avait compris, ce qu'on vous avait rencontré du coup plusieurs fois, vous faites aussi des activités pour avoir une cohésion du coup entre les adhérents, entre vous, tout ça?
Oui, bien sûr. Et pour cela, je vais laisser ma secrétaire de com parler un peu de nos objectifs et tout.
Alors, d'accord. Comme il disait tout à l'heure que notre association a été créée dans le but d'assister les nouveaux étudiants qui arrivent en France, précisément nous Guinéens, parce que c'est un peu compliqué que quelqu'un qui quitte l'Afrique et tu viens en France, tu connais personne, les deux buts sont très difficiles. Donc notre association a vu jour à travers cela. Donc sur ces bases, nous nous sommes fixés des objectifs. Et ces objectifs sont entre autres conseiller, assister, orienter les différents étudiants étrangers qui viennent précisément à Tours. Et également pour aller plus loin, puisque nous sommes dans un pays étranger, pour mieux nous faire connaître, nous avons ajouté deux autres objectifs qui sont entre autres la valorisation, la promotion de la culture africaine et celle guinéenne. Comme notre association le dit, c'est une association guinéenne, mais qui est ici à Tours. Mais il faudra noter que notre association, bien que le nom c'est Association guinéenne d'étudiants de Tours, nous sommes plusieurs. Il n'y a pas que des Guinéens, il y a d'autres personnes de différentes origines. Il y a des Ivoiriens, des Béninois. Donc, ce n'est pas une particularité parce qu'il y a souvent ce souci-là qui se pose. D'accord? Les gens pensent qu'il n'y a que des Guinéens, alors que notre association, elle est ouverte à tout le monde. Donc, bien évidemment, ce n'est pas très évident, mais nous faisons de telle sorte que nous puissions accompagner les différents étudiants. Et en témoignage, moi, je viens d'arriver cette année en France. Et c'est grâce à cette association, je dirais en partie, que j'ai pu être là. Parce que suivant ma procédure, il y avait des demandes à faire ici en France que moi, je ne pouvais pas effectuer. Donc, j'ai dû contacter cette association à travers les réseaux sociaux qui m'ont aidé. Et voilà, finalement, j'en suis là. Et parlant des activités, là, tout à l'heure, vous nous avez demandé si nous faisons des activités. Effectivement, nous en faisons plusieurs. Nous avons des activités qui sont régulières, qui sont sur un planning qu'on répète toutes les années. Il y a des activités diversifiées. Parmi ces activités, nous avons une journée culturelle que nous organisons, des ruptures collectives que nous faisons durant le mois de Ramadan, puisque nous sommes un parti musulman et c'est un mois de partage. Donc nous profitons de ce mois pour partager avec d'autres personnes. Nous organisons donc des ruptures collectives. Et il y en a plein d'autres, donc je vais le laisser plus vous éclairer parce que moi, je n'ai pas eu vraiment à participer à ces activités vu que je viens juste d'arriver. Donc il va vous expliquer plus clairement ces activités-là.
En vrai, notre activité, on se focalise précisément sur l'accompagnement en fait des étudiants. Depuis à la source, pendant les procédures pour pouvoir venir étudier en France, ils nous contactent depuis à la source et nous, nous leur poursuivons, on leur conseille et tout ce qui est démarche en France ici, on leur assiste dessus. Et une fois en France, on procède à leur accueil à la gare, bien sûr. Et évidemment, l'accompagnement dans les démarches administratives, à savoir l'inscription à la fac, l'OFI, Office français de l'immigration et de l'intégration, pour finaliser leur titre de séjour, en fait. Et aussi à la sécurité sociale, la CAF et tout ce qui en suit. Oui.
Et est-ce que vous les aidez, par exemple, à trouver, pour les démarches, tout ce qui est logement, pour qui, est-ce que quand ils arrivent, ils ont déjà trouvé un logement ou est-ce qu'ils ont besoin de vous pour... est-ce que c'est les démarches, vous les commencez avant qu'ils arrivent ou c'est tout un processus dès qu'ils sont là?
Oui, justement, on commence ces démarches-là depuis quand ils sont à la source, c'est-à-dire dans leur pays d'origine, avant de venir en France. Donc, nous leur conseillons déjà pour commencer, pour avoir un logement, on leur aide à avoir un logement auprès du CROUS et autres organismes. Parce que c'est plus sûr quand tu as un logement auprès du CROUS avant de venir ici, d'être là. Si tu as un logement avant que tu ne sois là, c'est plus sûr au fait. Là, tu viens, tu n'as pas de temps à perdre au fait.
Ouais.
Donc, on a des cas aussi, d'autres peuvent venir sans logement et on leur aide aussi à avoir des logements.
D'accord. Et donc, comment ils ont connaissance de l'association avant de venir? Comment ils arrivent à vous trouver ou comment vous véhiculez votre asso?
Alors, je pense que pour les personnes qui sont comme moi, qui ne connaissent pas grand monde à Tours, on fait la recherche sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, j'ai écrit sur Facebook, j'ai écrit Association Guinéenne pour voir si ça existait, Association Guinéenne à Tours, et directement on m'a affiché leur page. Il y a la page qui s'est directement affichée et moi je leur ai contacté sur Messenger, ils m'ont répondu et suite à ça on a gardé contact à travers aussi le email où on s'écrivait, on s'échangeait sur mes différents besoins jusqu'à ce que je puisse arriver en France. Donc sur les réseaux sociaux, nous avons notre compte Facebook, Association Guinéenne des étudiants de Tours, et également nous avons un email associationguinéenne.tours@gmail.com. Donc c'est sur ces deux contacts là que les gens peuvent nous contacter.
Et donc vous êtes 20, pardon, vous êtes pour l'instant 26 dans l'association, c'est ça?
Oui, c'est okay. Exact.
Ok. Et jusqu'ici depuis 2017 vous avez il y a combien d'étudiants que vous avez aidés comme ça pour les accueillir ou pour les démarches?
Ok. Pour cette année, on a eu par exemple 11 demandes depuis la source et il y a 8 personnes qui ont abouti, qui ont pu avoir le visa et il y a 7 personnes qu'on a pu accueillir sur Tours et jusqu'à présent, nous sommes avec eux, ils sont dans l'association et tout va nickel.
Donc en fait, dans votre association, vous êtes aussi là, aussi bien là pour aider à la source, aider à l'intégration sur place, donc tout ce qui est sur le niveau administratif, logement, mais aussi là du coup pour faire des moments de partage du coup au niveau des différentes cultures qu'il y a au niveau de votre association. Donc c'est très large. Comment vous faites pour vous organiser avec tout ça? Parce que je vois, nous, les petites associations, déjà, on a du mal à faire sans toute la partie administrative. Comment vous faites pour vous organiser dans tout ça?
Bon, pour ce plan, comme ma secrétaire de com vient de vous le dire, malgré il y a diverses nationalités parmi notre association, donc du coup, on organise quelques activités de détente ou je sais pas comment je vais l'appeler, de divertissement et tout. Et surtout, après les examens, parce que ça trouvera qu'il y a eu trop de stress et tout. Donc, on organise des activités pour que les gens puissent se détendre et tout. Donc, c'est un peu comme ça se passe au fait.
En fait, au niveau de l'association, il y a le bureau et dans le bureau, nous avons des chargés d'organisation. Donc, c'est ces personnes-là qui font un planning en fonction de nos différents mois et aussi de nos emplois temps, de nos différentes disponibilités. Nous essayons de trouver un créneau, soit pour se retrouver, en tout cas pour faire quelque chose pour mieux consolider nos liens, en fait, puisque tout le monde est occupé soit par les cours ou par le boulot. Donc, on essaye tant bien mal que de trouver un créneau pour que nous puissions nous retrouver, en fait. Je pense que c'est la meilleure des choses, en fait, puisque ici, tu connais pas grand monde. Alors, s'il y a des occasions comme ça, je pense que tout le monde, notre présence, pour que nous puissions partager au moins ces moments-là.
Et donc, vous arrivez à avoir assez de temps en dehors de vos études pour vous organiser avec tout ça et tous vos projets dans l'asso?
Oui, comme elle vient de le dire, pour ce facteur, on essaye juste de trouver des créneaux qui sont favorables pour tous, en fait, pour que tout le monde puisse y participer. Et d'ailleurs, parmi nos objectifs, nous sommes aussi, notre objectif, c'est de promouvoir la solidarité et l'entraide entre membres dans l'association. Du coup, ces soirées que nous organisons, c'est des soirées pour être solidaires et aussi d'en parler de ceux qui ont des problèmes. Voilà quoi. On s'entraide entre nous et tout. Donc.
D'accord. Et du coup, dans votre association, vous avez quels autres rôles? Donc président chargé de communication et tu disais, je ne sais plus, chargé à l'organisation. Et il y a quels autres rôles qui sont tenus dans l'asso?
Oui, dans l'association, le président est secrétaire chargé à l'accueil et à l'intégration. Il y a le trésorier, il y a la secrétaire de communication et il y a la secrétaire chargée à l'organisation. Et ouais, je crois que c'est tout.
Je pense que nous avons aussi ceux qui sont chargés aux affaires extérieures.
Ah oui, oui. On a un secrétaire chargé des affaires extérieures.
Donc c'est la personne qui va s'occuper de... qui va s'occuper de quoi?
Bon, le secrétaire chargé des affaires extérieures, oui, bien sûr. Le secrétaire chargé des affaires extérieures, lui, s'occupe de tout ce qui est extérieur à l'association, c'est-à-dire les collaborations et partenariats et autres.
D'ailleurs, vous avez quoi comme partenariat, du coup?
Jusque-là, je pense que c'est l'université, le CRUS, hein, c'est ça. Je pense que c'est ceux-là que nous avons comme partenaire pour le moment. Et y a pas, et notre banque, bien évidemment, où est logé le compte de l'association.
Et en parlant de partenariat, il y a d'autres qui nous ont contactés. Nous sommes déjà en train de discuter avec ceux-ci en ce moment. Donc, rien n'est calé pour le moment.
Vous avez des emplois du temps de ministre, en fait. C'est pas possible. Plus je vous entends parler, plus je me dis, mais comment ils font?
C'est vrai, mais ces activités, c'est pas tout le temps durant l'année scolaire. On fait un planning. Il y a un planning qu'on suit là. 5 à 6 activités durant l'année scolaire, à part peut-être des fois quand on a envie de se retrouver, on se fait des SMS juste pour se rencontrer, mais ça, c'est pas directement lié au planning que nous fixons pour l'année, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et vous avez des nouveaux adhérents à l'association assez souvent ou depuis qu'elle existe? Vous avez combien de nouvelles personnes par an, par exemple?
Ah oui.
Depuis comment ça s'est construit, en fait?
Chaque année, il y a des nouvelles personnes qui adhèrent à l'association.
Et est-ce qu'il y a des personnes qui n'adhèrent pas et qui vous aident même en dehors de l'asso? Est-ce que vous avez de l'aide extérieure aussi? Ou c'est surtout les personnes de l'asso?
De l'aide extérieure, vous voulez parler de personnellement ou...
Oui, personnellement.
Personnellement, non.
Ok, et du coup, les partenariats que vous faites, par exemple le CRUS, comment ça fonctionne, ces partenariats-là, concrètement?
Bon, les partenariats avec le CRUS, déjà, nous sommes une association étudiante qui est reconnue par la fac. Donc, du coup, et aussi, on bénéficie des subventions au niveau du CRUS. Et... On bénéficie des subventions de la part du CRUS et tout. Donc, et comme le CRUS, ils sont là pour les étudiants et eux, ils veulent que nous organisons des activités pour les étudiants, surtout au sein du CROUS, à la résidence universitaire.
J'avais une petite question. Est-ce que vous êtes en relation avec d'autres associations? Donc, que ça soit sur Tours, il y a des associations et des membres qui font aussi de l'intégration, ou même dans d'autres villes, du coup, qui vont essayer de faire un peu ce que vous faites. Est-ce que vous avez des relations avec ces assos ou pas?
Non, on n'a pas de relation pour le moment avec ces assos.
Il va falloir remédier à ça.
Ouais, c'est ça, je crois.
Oui, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'être en lien avec d'autres associations, par exemple d'autres associations culturelles ou des assos qui sont dans l'accueil des étudiants étrangers aussi? Est-ce que vous pourriez, est-ce que ça vous intéresserait d'obtenir de l'aide ou juste du partage de...
Oui, tout à fait, c'est déjà la base en fait, c'est l'intégration, c'est créer beaucoup plus un cercle, donc ça sera super intéressant, oui.
De toute façon, tout ce qui va sur le même chemin que notre objectif, ça le fait, hein.
C'est beau de dire tout ce qui va sur le chemin, le même chemin de notre objectif.
Ben oui, ça le fait.
Oui.
Ben moi, du coup, j'avais pas d'autres questions. Pour le coup,
j'ai pas trop d'autres questions non plus. Juste, si vous pouvez nous rappeler les activités que vous avez, par exemple, les projets que vous avez eu dans, que vous avez eu dans l'année. Bon, on est quand même en janvier, donc il y en a pas eu beaucoup. Qu'est-ce que vous avez eu comme projet ou qu'est-ce que vous comptez faire prochainement dans l'année?
Je dirais depuis novembre, on a eu à organiser une journée d'intégration pour les nouveaux étudiants qui sont arrivés. On a fait ça à la résidence Grandmont. Et également pour le mois de décembre aussi, nous avons eu à faire une petite fête pour histoire de se retrouver et fêter le nouvel an ensemble.
Trop bien.
Et pour le courant de l'année 2019, nous avons d'autres projets en cours, tels que je vais profiter de l'occasion pour vous parler de la conférence que nous devons organiser le 14 mars de cette année, qui portera sur le mariage précoce en Afrique, qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est une pratique qui continue toujours et encore à se faire dans notre pays. Donc là, c'est le fondamental. Également, nous allons faire une journée culturelle qui se tiendra en juin. Une journée culturelle en juillet, où nous comptons valoriser un petit peu et mettre à la connaissance des autres notre culture, où il y aura des défilés, des théâtres, des sketchs en rapport un petit peu à notre pays. Et cela, pour le mois de Ramadan, bien évidemment, comme toutes les autres années, nous comptons faire les ruptures collectives où nous invitons diverses personnes à y assister. Donc, c'est entre autres les activités que nous avons à faire pour cette année-là.
Ça fait quand même pas mal de choses intéressantes.
Oui, c'est ça.
Et, vas-y.
Et j'aimerais ajouter quelque chose. En mois de juin, nous comptions faire aussi une sortie au château de Chambord.
Trop bien, ouais. Trop bien. Et par exemple, cette conférence que vous organisez le 14 mars, vous l'organisez où et ce sera organisé avec qui?
Là, pour le moment, nous n'avons pas décidé du lieu, mais on espère que ça sera à Grandmont. On espère que ça sera là-bas et quand ça sera prêt, on espère pouvoir revenir vous en parler.
Du coup, j'espère vraiment qu'on pourra vous revoir et d'ailleurs qu'on pourra même assister à la conférence parce que ça a l'air vraiment intéressant.
Oui.
La question est super intéressante.
Ouais. Et cette journée culturelle que vous allez organiser
en juillet.
Oui. Juillet. Vous avez des. Est-ce que vous la faites avec des partenaires? Est-ce que.
Oui, nous y comptons.
Ok. Trop bien. Vraiment, en fait, vous faites plein de choses.
Et du coup, ça sera autour de la culture africaine?
Oui, c'est cela.
Oh, trop intéressant. C'est trop intéressant tout ce que vous faites, c'est incroyable ça.
Ouais.
Je demande où vous trouvez le temps, mais apparemment vous le trouvez. Donc
On essaie entre les cours et le boulot, on essaie quand même de trouver le temps de faire ces activités.
Et c'est pas du tout facile pour nous de pouvoir planifier toutes ces activités-là.
Oui, j'imagine.
On jette un coup d'œil à tout le planning de l'année et tout, les moments de congé pour pouvoir placer les activités. Pour que ça puisse bien se passer et en présence de tout le monde, en fait.
Et Donc tous les membres de votre association sont répartis dans tous les campus. Il n'y a pas de plus d'étudiants à Grandmont ou
Non, ils sont répartis dans les campus. Okay. D'autres sont à Grandmont, ici à De Lyon et au Tanneur.
Bah, moi, je voulais juste vous dire déjà félicitations de faire tout ça.
Merci.
Entre les cours, le boulot, l'organisation, tout ça. Franchement, ouais, bravo.
Merci.
J'ai pas d'autres mots.
Tous vos projets sont méga intéressants et ont l'air vraiment méga intéressants. Mais j'espère pouvoir assister à votre conférence parce que...
Ça me fera plaisir.
Ouais. Et vous savez si, par exemple, cette conférence ou les journées culturelles que vous organisez, ça attire du monde? Vous savez combien de personnes vous pouvez attendre ou jusqu'ici, qu'est-ce que ça donne?
On espère que ça sera assez, puisque pour la conférence, ça sera une première, en fait.
D'accord.
Et également, la journée culturelle, ça sera une première. Mais les autres activités, on a déjà eu à faire. Par exemple, les ruptures collectives, quand on les organise, c'est vrai que nous ne sommes pas très nombreux. Mais vu qu'on invite les d'autres personnes à y assister, il y a au moins une cinquantaine de personnes qui viennent partager le repas avec nous.
Et c'est vraiment pas mal. Ouais.
Et pour ces ruptures collectives, je tiens à préciser que c'est pas ce, il y a, en fait, on fait pas de différence entre la religion ou quoi. Il y a pas de tout ça, en fait. On fait des repas, tout le monde vient, tant que tu as le temps, tu viens et voilà.
Oui, en fait, c'est la base.
Le repas,
c'est la base de votre asso, c'est la solidarité, en fait.
Ouais, le partage, tout ça, en fait.
On vous invitera, ça sera l'occasion de goûter à nos plats africains.
Wow. Allez, il y a mon estomac qui vient de se réveiller.
on est invité en avant-première là, c'est trop bien.
Là, mais c'est vraiment génial, enfin, que vous trouviez en fait le temps de faire tout ça au niveau de l'intégration, de la solidarité, du partage, de la cohésion. Enfin, c'est ouf.
Merci.
Ouais, vraiment, bravo à vous. C'est impressionné.
Et est-ce que vous pouvez nous rappeler du coup les coordonnées de votre page Facebook ou de votre mail pour que du coup
Oui, alors
ça soit clair.
Pour nous contacter sur les réseaux sociaux via notre page Facebook, c'est Association Guinéenne des étudiants de Tours. Il suffit de mettre ça et notre page va s'afficher. Ou par email, vous avez associationguinéenne.tours@gmail.com. Et également, nous avons nos numéros, je vais vous communiquer. Nous avons le 07 66 62 96 62 et le
07 68 18 74 17.
Vous êtes sur tous les fronts, quoi.
C'est ça, on est prêts, bien armés.
On ne peut pas vous louper, là, c'est bon.
Tout à fait.
Et surtout, en parlant de ça, nous ne pouvons pas œuvrer si on ne nous contacte pas, en fait. Vous comprenez un peu, donc...
Oui.
C'est quand on nous contacte qu'on peut faire ce que nous sommes en train de faire.
Ouais, c'est pour ça que c'est super important ce que vous faites et que ça doit continuer, en fait.
Ouais, ça va continuer.
On espère.
Et du coup, vous avez quelque chose à rajouter?
On va juste vous dire merci de nous avoir invités. Ça nous a fait plaisir et ça nous fait une publicité en plus. Donc... C'est tout, merci et on espère nous retrouver là aussi bientôt pour vous parler de la suite de nos activités et de l'évolution de notre association.
Merci à vous d'être venus.
C'était très très chouette de vous rencontrer autour de ce petit plateau.
Et très enrichissant, merci. Ouais.
Merci à vous.
Au revoir.
Salut. Voilà.
Et nous revoilà en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Emmanuel Traigné de la compagnie Interligne. Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, on va peut-être vous présenter aux yeux de nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que vous faites depuis quand vous êtes dans la compagnie, depuis quand vous faites du théâtre?
Alors, je suis une ancienne étudiante, moi aussi, mais il y a très très longtemps, il y a quelques années. Et maintenant, plus sérieusement, je suis comédienne et je co-dirige la compagnie Interligne, qui est une compagnie de théâtre professionnelle installée à Tours depuis pas mal de temps également.
D'accord.
Depuis 27 ans.
D'accord. Et vous, depuis quand vous êtes dans la compagnie?
Depuis l'origine, puisque on l'a créée.
D'accord.
Voilà.
Et comment vous est venue du coup cette idée de créer cette compagnie? Quel en a été le but?
Eh bien, en fait, c'est l'idée de s'approprier son propre outil de travail, je pense, tout simplement. On était au départ trois comédiens et puis on a eu envie de gérer, de créer notre outil pour pouvoir créer nos propres spectacles, nos propres projets. Voilà, donc au fil du temps, un des trois est parti, mais nous restons, donc nous sommes deux femmes à co-diriger la compagnie, Christine Mariez et moi-même. Et voilà, l'idée principale, l'idée d'origine, c'est ça, c'est de pouvoir, de pas être simplement, quand on est comédien, on est souvent, enfin, quand on est comédien freelance, on est souvent dans la position d'attendre les projets. Et ben, nous, on avait envie d'inverser un peu les rôles et d'être aussi les acteurs de nos propres projets. Voilà.
D'accord. En fait, dégager un peu cette sensation de dépendance envers les autres compagnies et salles.
Voilà, tout à fait, oui.
D'accord.
Et puis d'avoir aussi un propos artistique, c'est-à-dire d'avoir un regard sur qu'est-ce qu'on veut dire, d'être vraiment les maîtres du projet artistique.
D'accord. Et du coup, actuellement, il y a environ combien de personnes dans cette compagnie ?
Alors, c'est fluctuant en fonction des projets. Disons que le noyau dur, donc c'est Christine et moi qui dirigeons la compagnie. Et il y a également une chargée de production et de diffusion, Lauriane Caillot. Et puis après, ben, c'est en fonction des projets, en D'accord. fonction des spectacles, c'est à géométrie variable. Je dirais qu'après, on embauche d'autres artistes, des techniciens, en fonction des spectacles.
D'accord. Et du coup, vous avez des comédiens récurrents que vous voyez souvent?
Oui, bien
vous
sûr.
De changer,
oui, oui, bien sûr. Il y a depuis le temps, il y a des fidélités, des amitiés qui se sont créées. Et bon, c'est vrai qu'on a... On a l'habitude, de retravailler avec les gens qu'on apprécie, les artistes qu'on apprécie. Bien sûr, oui. Après, ça n'empêche pas de renouveler aussi, d'avoir des nouvelles têtes, de la jeunesse qui arrive aussi.
D'accord.
Voilà.
Et du coup, vu que vous êtes là depuis le début, est-ce que vous avez pu sentir ou voir une évolution au sein même de la compagnie, que ce soit dans la façon de créer des spectacles ou autre ?
Alors, disons que nous, on a toujours eu un fonctionnement quand même un petit peu atypique, surtout au début. Bon, maintenant, les collectifs, ça existe de plus en plus. Hein, y a beaucoup de jeunes compagnies qui travaillent sur ce modèle-là. Nous, en 92, quand on a créé la compagnie, c'était déjà un petit peu plus original. Hein, le modèle classique des compagnies, c'était un directeur artistique, un metteur en scène... Et puis qui menait la barque, on va dire.
D'accord.
Donc nous, le fait qu'on soit comédienne et qu'on dirige, déjà ça c'était un petit peu plus original comme fonctionnement. Et puis on a toujours aussi privilégié l'ouverture, c'est-à-dire qu'on invite très souvent des metteurs en scène également. On aime bien les collaborations artistiques, donc. Oui, c'est une compagnie ouverte, on va dire.
D'accord.
Voilà, ça a toujours été le cas. Donc, c'est pas un élément qui change. Ce qui change, c'est que depuis quelques années, ma camarade Christine s'est mise à la mise en scène et donc elle a été à l'initiative de plusieurs spectacles. D'accord. Elle, en tant que metteuse en scène.
D'accord. Donc, voilà. Une diversité même au sein même des personnes qui sont là.
Voilà. Okay. Voilà.
Et du coup, une question que j'aime bien poser, est-ce que c'est majoritairement de la création ou de l'adaptation que vous faites au sein de votre compagnie ?
Alors, c'est très ouvert aussi sur le répertoire. Nous, notre particularité, c'est la diversité, c'est la variété. On aime bien varier les plaisirs, les disciplines. Donc, on s'est aussi bien attaqué à des créations contemporaines, à des textes contemporains, qu'à des textes du répertoire, qu'à des créations pures, c'est-à-dire où vraiment on a écrit des spectacles. On aime bien aussi, mélanger, je le disais, mélanger les disciplines, c'est-à-dire on ne fait pas que du théâtre, mais on a toujours bien aimé mettre du mouvement dans nos spectacles, travailler le corps, tout l'aspect corporel est en général assez important. Dans le théâtre, il y a différentes tendances. Donc nous, on aime bien aussi. On a fait du clown, par exemple. On a fait du masque. Vraiment à des disciplines différentes, à la musique, au chant. Enfin voilà, vraiment varier, euh, varier les inspirations, c'est
ce qui nous a... Au-delà du théâtre tel qu'on l'entend, là, on est vraiment sur de la scène, sur un spectacle.
Oui, puis bon, je pense que ça vient aussi de notre formation, à Christine et moi, où on a fait beaucoup de danse quand on était plus jeune. Et donc, voilà, ça fait partie aussi de nos goûts, de notre vécu, donc... Ça transparaît forcément dans nos créations. Voilà, et puis oui, c'est aussi le plaisir de toucher un petit peu à tout, d'aller se confronter à d'autres disciplines. C'est aussi important dans la vie d'une compagnie de se renouveler, d'aller voir un petit peu ailleurs que ce qu'on a déjà fait, par exemple.
De trouver de l'inspiration qu'il n'y a pas dans le théâtre classique et qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines.
Oui, et puis c'est un champ tellement large, le théâtre contemporain, c'est très vaste. Hein. Tout est possible, finalement. Dans l'écriture contemporaine, il y a beaucoup de choses possibles dans le spectacle vivant. Donc, On n'aurait pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on a envie de faire, que ce soit d'ailleurs dans le répertoire que dans l'écriture contemporaine.
Hein. Est-ce que d'ailleurs vous auriez des petits conseils pour, par exemple, des compagnies qui voudraient se lancer ou des toutes petites compagnies, même associatives, parce que je sais que peut-être certaines nous écoutent, des associations de théâtre, de tours, étudiantes, et qui peut-être auraient besoin de conseils de plus grandes.
Oh là là, ben moi des conseils, je serais bien... C'est difficile d'en donner. Il faut beaucoup de conviction. Mm-hmm. Et il faut avoir un peu quand même... Il faut s'acharner un petit peu pour... ce qui est difficile, c'est de durer, oui. Peut-être. C'est aussi de commencer. Je pense que pour les jeunes compagnies qui démarrent actuellement, c'est peut-être... plus difficile que pour nous. Il y a presque bien maintenant 30 ans, parce que il y a aussi plus de monde sur le terrain, je pense. Oui. Il y a plus de jeunes compagnies, donc forcément, il y a plus de. C'est riche, c'est très riche, ça c'est super, mais bon, forcément, il y a aussi peut-être plus de concurrence, et donc c'est difficile de faire son chemin, quoi.
Puis à Tours, c'est vrai qu'il y en a énormément.
Oui, il y a beaucoup de il y a beaucoup de compagnies. Alors c'est bien parce que c'est il y a une émulsion, c'est chouette, mais c'est vrai qu'il faut vivre. Hein. Mmh. C'est devenir compagnie professionnelle, c'est des responsabilités. Donc c'est pas évident. Il faut être reconnu auprès des institutions, auprès de ses pairs. Et ça, c'est un long chemin. Et en fait, c'est jamais vraiment gagné. Enfin, moi, j'ai l'impression que il faut toujours faire ses preuves, même au bout de 28 ans. Il faut à chaque nouvelle création, on remet en question nos compétences, notre soi-disant talent. On remet ça sur le tapis, quoi.
Oui, rien n'est gagné d'avance.
Non, non.
Donc, il faut pas se reposer sur ses lauriers.
Non.
Oh, mais c'est...
Si tant est qu'on en est.
Effectivement, déjà. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au-delà de toute cette diversité que vous mettez en place dans la compagnie Interligne, c'est que vous faites aussi beaucoup d'actions culturelles.
Oui, tout à fait.
Donc, par exemple, les formes nomades, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les formes nomades, c'est des petites formes. Par exemple, des lectures théâtralisées. Mmh. Donc, des formes très légères, techniquement adaptables, tout terrain, qu'on peut proposer aussi bien en extérieur qu'en extérieur, qu'en formule fixe ou en formule déambulatoire, par exemple, en randonnée littéraire, par exemple. Voilà, on aime bien aussi diversifier les formes pour s'adresser à des publics différents. Mmh. Pas forcément que le public qui a l'habitude d'aller au théâtre, mais aller au-delà, au-devant de gens qui ne vont pas forcément au théâtre, mais qui vont par exemple s'inscrire à une randonnée au milieu des vignes l'été et ils vont être surpris de voir qu'on va proposer, il y a une compagnie qui va proposer une lecture théâtralisée autour du vin, par exemple.
Oh, super.
Voilà, c'est notre façon de, oui, de proposer de la littérature, du théâtre, des formes théâtralisées. Dans des, oui, dans des situations plus, plus atypiques, quoi, plus curieuses.
Promulguer la, voilà, la culture.
Voilà,
en fait.
Oui, oui, oui. Donc ces formes nomades nous permettent ça. Voilà. Et effectivement, l'action culturelle, c'est un volet très important de notre travail. Par exemple, nous, on intervient depuis de nombreuses années avec le soutien de la région et du département. Auprès des personnes âgées qui sont en maison de retraite, par exemple.
D'accord.
On leur propose trois rendez-vous et on leur propose un programme de lecture théâtralisée ou dansée dans le cadre de... On intervient dans les maisons de retraite.
D'accord.
Voilà. Et ben, ça, c'est un travail qu'on aime beaucoup faire parce que... On sait pourquoi on le fait. Y a une vraie demande, un vrai besoin, une vraie nécessité.
Parce que ce public ne peut pas souvent se mouvoir pour aller au
théâtre. Bien sûr, voilà. Et puis que souvent, les structures n'ont pas beaucoup de moyens non plus pour proposer des activités culturelles. Donc là, il y a un vrai besoin. Et bon, c'est super de nous, depuis... On a pu créer des liens de fidélité avec certaines structures ou certains résidents dans des lieux. Et voilà, le retour qu'on a, c'est que c'est utile, tout simplement. Oui. Parce qu'au-delà du temps de lecture, du temps de découverte d'auteurs ou de redécouverte, parce que bien souvent, évidemment, ces personnes ne peuvent plus lire, tout simplement, parce que voilà, elles ne voient plus bien clair... Donc, au-delà de l'intérêt littéraire, il y a aussi tout l'aspect humain qui est très important parce que nous, après le temps de lecture, on propose un échange, bien sûr, un temps d'échange. Donc là, voilà, les personnes peuvent s'exprimer sur ce qu'elles ont ressenti, les émotions que ça a pu leur procurer ou sur des souvenirs de lecture. Voilà, c'est un temps d'échange et c'est un travail qu'on aime beaucoup faire et auquel on tient, oui.
Et puis ça les fait participer parce que ça doit leur rappeler que ça reste aussi des humains qui peuvent parler, communiquer au-delà du
médical, je pense. Oui, oui,
ça doit être personnellement très fort aussi.
Oui, c'est souvent émotionnellement assez chargé. Oui.
Et du coup, ça doit peut-être rentrer ça dans ce que vous appelez sur votre site la sensibilisation artistique.
Oui, alors la sensibilisation artistique, c'est aussi un volet plus pédagogique où là, ça nous arrive aussi d'intervenir auprès du jeune public, par exemple. Alors autour des spectacles, mais pas que. On peut, par exemple, en amont d'une représentation pour des élèves ou des enfants. Intervenir dans une classe pour échanger, là encore, les préparer au spectacle. Ou alors, ça nous est arrivé aussi d'intervenir dans des écoles, par exemple, pour monter un spectacle, par exemple, avec toute l'école. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises, entre autres avec toute l'école élémentaire de Notre-Dame-d'Oé, où on avait... Je ne sais plus combien il y avait d'enfants, mais on avait monté un spectacle avec tous les enfants de l'école. Voilà.
Donc, vraiment le partage au cœur de la compagnie Interline, c'est pas juste une troupe de théâtre, c'est vraiment donné.
Pour nous, c'est ça le théâtre aussi, c'est la rencontre, c'est l'échange, c'est vraiment au cœur de notre métier, puis de notre façon d'entrevoir. L'art au milieu de... dans la ville, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment ça, oui.
D'accord. Et pour terminer, dans vos actions culturelles, vous avez des projets événementiels.
Alors, ça, c'est des commandes.
D'accord, c'est sympa, c'est étonnant.
Oui, c'est assez marrant. Par exemple, ça nous est arrivé d'intervenir... alors là, c'est ce qu'on appelle un peu le théâtre invisible. C'est-à-dire qu'on... On fait travailler notre savoir-faire de comédien pour intervenir dans des cadres vraiment hors théâtre. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret parce que comme c'est un peu difficile à expliquer. Par exemple, un laboratoire pharmaceutique qui organise une grande réunion de médecins dans un grand hôtel avec conférences, colloques, dîners en soirée, etc. Et pour un peu agrémenter le rendez-vous, ils font appel à nos services. Et nous, on intervient, par exemple, lors du dîner en théâtre invisible, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'être des serveurs. Et petit à petit, on glisse au cours de la soirée des situations incongrues, humoristiques, décalées, qui amènent un peu de théâtre, un peu de...
J'avoue qu'on voit ça beaucoup dans les films, mais je ne pensais pas qu'on faisait ça aussi en vrai.
Donc ça se fait beaucoup en théâtre d'improvisation, en tout cas. Oui, oui. Donc ça nous est arrivé de faire ça, c'est assez...
C'est cool.
C'est pas mal de boulot de préparation, malgré tout, même si on appelle ça du théâtre d'improvisation, ça se prépare, mais c'est assez marrant à faire, oui.
Je pense que doit y avoir de la surprise dans les regards au tout début, ça doit pas comprendre.
L'enjeu, c'est ça, c'est de démarrer vraiment très soft pour ne pas se faire repérer tout de suite, et puis petit à petit glisser des choses incongrues qui font que les gens se disent « c'est bizarre
». Pas normal, ça. Pas sûr, mais il y a des doutes. Eh bien, d'accord, très bien. On va avant, du coup, petit planning. Avant de passer, du coup, à vos événements du 5 et 6 février, donc votre pièce « La beauté, recherche et développement au Petit Faucheux » et une musique. On va peut-être faire une petite programmation rapide de ce que peut vous proposer dans les prochains mois, semaines, enfin, la compagnie.
Alors, l'actualité est assez riche parce que nous avons plusieurs spectacles au répertoire. Donc, l'actualité la plus urgente, c'est effectivement demain et après-demain au Petit Faucheux, mais on y reviendra après. Oui. Le mois prochain, nous jouerons le Cabinet de Curiosité, qui est notre avant-dernière création. Cabinet de curiosité qu'on jouera le 8 mars, donc la journée internationale du droit des femmes à Bléret, que nous reprendrons en avril à Saint-Branc. Donc là, le cabinet de curiosité, c'est vraiment une création assez, elle aussi assez originale. Nous sommes trois. Le dispositif est assez particulier, c'est-à-dire qu'on ne joue pas en frontal, on ne joue pas dans les théâtres, mais on joue dans des lieux qu'on essaie de trouver plutôt insolites. D'accord. Et comme son nom l'indique, c'est un cabinet de curiosité avec vraiment une exposition, des objets à découvrir, et en particulier au milieu de cette exposition d'objets curieux, il y a trois femmes objets exposées qui vont bien sûr s'animer et donner le spectacle. Voilà. Donc c'est
atypique.
C'est assez original. Il y a très peu de texte sur ce spectacle-là, beaucoup de mouvements et beaucoup à voir. Il y a beaucoup à voir. Voilà.
D'accord. Eh bien, musique maestro ?
Eh bien, oui, avec grand plaisir. Ce sera I Am DDB, Child's Play.
My own house. between the scars of I cannot see what happened to me. I'm just trying to be me. Pick myself up, throw yourself down, never give up on us, 'cause we are so far from them, from them.
Vous êtes toujours en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Désolée, on rigole beaucoup sans vous. Désolée. Donc, on va revenir maintenant avec Emmanuel Trénier de la compagnie Interligne pour parler de la pièce La Beauté, Recherche et Développement qui se tiendra les 5 et 6 février au Petit Faucheux, si je ne m'abuse.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire demain et après-demain. Exactement. Demain, nous jouons à 20h et jeudi à 19h.
Donc déjà, les premières questions, c'est quoi? C'est fait par qui? Et c'est à destination de qui?
Alors, qu'est-ce que la beauté? C'est tout l'enjeu du spectacle où justement on se pose la question. Je ne sais pas si on apporte beaucoup de réponses, mais en tout cas, on se pose beaucoup de questions. Donc, la beauté, recherche et développement, c'est un texte contemporain qui a été écrit par un duo. Mm-hmm. Un homme, une femme, Éric Verdun, Florence Muller. C'est un texte qui est vraiment récent, qui a été écrit il y a 3-4 ans, je crois.
Oui.
Qui a été assez peu joué, si ce n'est par l'auteur elle-même. Florence Muller a joué ce texte, entre autres au Théâtre du Rond-Point à Paris et à Avignon. Nous, on l'a découvert il y a 2 ans et on a vraiment eu un coup de cœur pour cette écriture. Et voilà, on a décidé, enfin on a demandé les droits qu'on a obtenus bien sûr, mmh. Et donc on a créé le spectacle il y a un mois à Issoudun, dans le Berry, et on le reprend donc demain et après-demain à Tours.
D'accord. Et quel est le message ou les thèmes, voire les enjeux qui sont avancés dans cette pièce ?
Alors, c'est difficilement racontable, mais comme le nom l'indique, la beauté, recherche et développement, en fait, c'est une invitation à réfléchir sur ce qui pourrait nous consoler de toutes les misères de la condition humaine. Mm-hmm. C'est-à-dire, on en parlait tout à l'heure, mais l'âge, le vieillissement, la fatigue, l'usure, le corps qui trinque, la maladie, la solitude, voire la mort, qui est quand même l'inconvénient majeur de la vie, hein,
oui,
on peut dire.
Voilà, en somme.
Voilà. Et alors, quand on a posé tous ces constats-là, on se dit, comment on va s'en sortir ? Eh bien, peut-être grâce à la beauté. Et alors, qu'est-ce que la beauté ? Où est-ce qu'on la trouve ? Voilà, donc c'est une invitation à réfléchir à cette notion assez philosophique, existentielle, mais de façon totalement déjantée.
Oui.
Voilà, ce qui nous a plu, c'est à la fois vraiment le propos, ce dont ça parle, et comment c'est traité. C'est une écriture vraiment très singulière, non conventionnelle, donc qui traite des sujets finalement assez intimes, à la fois intimes et universels, hein, ça nous parle tous, ces questions-là, mais de façon très... j'allais dire très pudique, dans le sens où, pour moi, l'humour, c'est une forme de pudeur. Et dans le texte, il y a beaucoup de pudeur. Autant dire, il y a beaucoup d'humour. Voilà.
Ah, c'est génial. De ce que j'ai vu aussi, vous aviez placé une phrase dans son contexte, mais ce morceau que je trouve très intéressant, c'est « Le verbe est tout ». Qu'est-ce que ça signifie ?
Ah oui, alors parce que en fait on a fait le choix, donc oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc sur scène on est deux, deux D'accord. femmes. Les deux personnages, on ne sait pas trop si ce sont deux guides, deux hôtesses. En tout cas, elles invitent le public, qu'elles appellent le petit groupe, à les suivre dans ce parcours, un espèce de parcours initiatique.
D'accord.
Mais c'est un parcours imaginaire, bien entendu, et qui fait appel beaucoup à l'imagination du public, des spectateurs. Mmh. Et pour enfoncer le clou, nous, on a fait le choix de ne pas illustrer ce parcours, ces différentes salles dans lesquelles elles vont avancer. Mais en fait, donc le plateau est nu. D'accord. Il n'y a absolument aucun décor. Mais par contre, ce qui crée les espaces, ce sont les éclairages. Donc, il y a un gros, gros travail d'éclairage qui a été fait par Michel Druez. Ce sont les éclairages qui créent les espaces et le son. Où il y a également un gros travail, un univers sonore très riche qui, là, a été créé par Jean-Philippe Auger, qui a un studio d'enregistrement à Tours qui s'appelle Vert Foncé.
D'accord. Justement, j'allais y venir. L'espace, donc, vous êtes en train de dire qu'il est vide.
Il est nu, ouais.
Pourquoi cette volonté de l'habiller autrement que par des objets pour concentrer le spectateur dans ce qui est dit et ce qui se passe, ou juste pour pouvoir mettre la lumière en avant?
C'est-à-dire que c'est vraiment un voyage imaginaire et ça fait vraiment appel à l'imagination du spectateur. Donc pour nous, ça n'avait aucun intérêt de signifier des espaces, des salles. Par exemple, elles vont entrer dans la salle de l'amour. Donc on, chacun a sa propre représentation de l'amour, de la beauté. Elles vont entrer dans une salle, la salle libre service beauté. Donc après, chacun se fait sa propre représentation et c'est ça ce qui est intéressant dans le texte. C'est-à-dire que ça ne donne aucune réponse.
Non, mais c'est génial.
Autant le dire tout de suite. Mais par contre, ça ouvre des champs. Ça pose vraiment beaucoup de questions et je pense, enfin les retours qu'on a eus, c'était super parce que les gens nous ont dit ah mais oui, du coup, on est sortis en se demandant pour nous qu'est-ce que c'est la beauté. Chacun a ses propres réponses, finalement.
C'est génial, parce que oui, justement, pour venir, vous avez déjà eu une première date, justement, à Issoudun, je crois.
Oui, tout à fait.
Au niveau des retours, est-ce que vous avez ajusté un peu la pièce par rapport à...
Alors, ajuster, pas réellement. On ajuste techniquement, parce que les espaces, justement là, les espaces de jeu sont un peu différents. À Issoudun, on avait vraiment un très très grand plateau. Le petit faucheux, c'est un beau plateau, mais qui est un peu réduit par rapport à notre première. Donc, en fait, les ajustements, ils vont être plutôt pour Michel Druez, le régisseur, qui va adapter les éclairages en fonction de la scène du petit faucheux.
D'accord.
Voilà. Sinon, le spectacle est le même.
D'accord. Ouais. Top. Vous parliez de son. Qu'est-ce que peut y avoir en son, justement, pour toujours, en laissant travailler cet imaginaire, mais en apportant du son?
Alors, comment je pourrais dire sans trop dévoiler? Oui, l'univers sonore est très riche parce que... Alors ça, c'est ce que permet le théâtre, c'est ce que permet l'imagination. C'est-à-dire que d'un claquement de doigts, on peut se retrouver, si on le décide, au sommet de l'Everest. C'est ce D'accord. qui se passe. Hein, elles changent d'espace, elles entrent dans des salles, mais ce sont des salles imaginaires, virtuelles. Et donc, pour... Malgré tout, aider un petit peu le spectateur, on peut donner une ambiance sonore qui va donner un peu une ambiance, aider à rentrer dans ces différentes salles.
Oui, par exemple, si elles vont dans une forêt, mettre des bruits de craquement.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Ok, bah c'est super. Et au niveau de la lumière, comment vous avez réussi à agencer pour que ça donne cette impression justement de salle sans... avec le vide.
Alors là, moi, je vais être un petit peu... il aurait fallu que Michel, le créateur lumière, réponde. Il serait plus à même de répondre à ces questions-là, parce que c'est un travail qui est très technique.
Hein. Bah oui, oui, c'est ça qui est incroyable.
Ce que je peux dire, moi, c'est qu'il y a des ambiances très différentes dans le spectacle. Où on entre dans des univers feutrés, dans des petits cocons. Donc, il essaie de transcrire par des éclairages très différents, des couleurs différentes. Il y a aussi tout un rapport qui est intéressant, qui était intéressant à traiter pour lui, c'est que par moment, elles sont coupées du petit groupe. C'est-à-dire qu'il y a le rideau de fer qui, là encore, dans l'imaginaire, tombe. Hein, vous savez, le rideau de fer, c'est ce qui nous sépare les acteurs du public quand il n'y a pas de représentation, hein, bien sûr. Et donc là, à plusieurs reprises, le rideau de fer tombe. Et donc, elles sont coupées du petit groupe. Mm-hmm. Donc, il y a des jeux de lumière aussi qui aident à comprendre que tout d'un coup, elles sont elles aussi perdues. C'est aussi assez symbolique. C'est-à-dire que les éclairages, ils racontent aussi que ce parcours, il est chaotique. Ce parcours, c'est la vie, en fait. Hein, c'est... Le parcours qu'elle propose, c'est aussi la symbolique de la vie. On tombe, on trébuche, on se relève, on continue, on en perd certains en route. C'est tout ça ce que ça raconte. Donc il y a des ratés, il y a des voilà, c'est chaotique.
Moi je trouve ça super intéressant, c'est super cool et on va peut-être terminer par les personnages justement qui sont seuls sur scène au milieu juste des lumières du coup, parce que ça peut pas être trop étonnant de voir juste deux personnes sur scène comme ça. Comment le vivent les actrices et les personnages, justement?
Alors, on est effectivement deux sur scène. L'espace, c'est vide. Mais dans leur tête, c'est bien rempli. Je pense même qu'elles sont même plusieurs.
Ah oui, d'accord.
Brigitte et Nicole, parce qu'elles s'appellent comme ça. Brigitte, Brigitte Gézier et Nicole Consort. Consort comme la reine consort, pas consort dehors comme la poubelle. Ouais. Voilà, Nicole se présente comme ça. Elles sont effectivement le début du spectacle. Elles annoncent que c'est un peu raté parce qu'il doit y avoir normalement une fanfare avec des majorettes, mais elles sont pas là. Donc on va quand même le faire, mais c'est pas des conditions optimales. Et donc elles sont seules, mais elles sont pas seules dans leur tête, non.
D'accord, merci.
Peut-être des informations concrètes, pratiques. On peut réserver ses places directement auprès de la compagnie Interligne et les récupérer le soir même au Petit Faucheux.
D'accord. Et il y a un site, une page Facebook.
Il y a une page Facebook, bien sûr. Il y a un numéro de téléphone. Que je vais vous donner tout de suite, puisque j'ai quand même une excellente mémoire. Donc, la compagnie Interline, c'est le 02 47 52 80 93, où l'on peut réserver.
D'accord, très bien. Et bon, on va quand même rappeler, surtout, que c'est du coup demain et après-demain au Petit Faucheux. Demain, 20h et jeudi, 19h.
C'est ça.
Ah, j'ai une bonne mémoire. Et ben, merci beaucoup, Emmanuel Trinier, d'être venu.
Merci de votre accueil.
Et puis, ce qu'on peut vous souhaiter sans dire de gros mots.
Je prends.
Et à demain.
Et oui, à demain, chers auditeurs.
Radio Campus Tour, 99.5.
Et sur internet, radiocampustour.com.